L'heure du carillon, aujourd'hui la fraternité. Bernard Lauriac, quelques mots pour expliquer le thème du jour. On est actuellement dans une certaine confusion, une certaine incertitude, perte de repères, peur de l'avenir. Et pour sortir de l'impasse, il m'a semblé que la solution, c'était pas l'économie seule, qu'il fallait revenir à des valeurs fondamentales, la dignité, le respect, la solidarité, la fraternité. Et donc, c'est une notion finalement qui paraît simple, mais qui est plein de paradoxes. Et pour s'en sortir, je crois que le dialogue nous permettra d'y voir plus clair. Alors, pour en parler, j'ai autour de moi 4 participants. Il y en a 2 qui sont bien connus des auditeurs. Le troisième sort d'opération, donc on l'a pas fait venir. Alors, allons-y.
Bon, Michel Mambressous, ben je suis un habitué de l'émission puisque je fais partie de l'équipe de ceux qui animent.
Voilà, alors tu nous en dis un peu plus sur ton parcours.
Mon parcours de vie, ben, il commence à être un petit peu long puisque c'est la retraite depuis quelques temps.
Oui.
Mais mon parcours, bon, il se fait effectivement au travers de la fraternité le plus possible. Parce que la fraternité...
Mais ça, on va en parler dans la première partie. Mais donc, tu as fait un peu de tout, toi, dans ta vie. Explique-nous.
Oui, mais j'essaie de faire que de belles choses comme toutes les personnes ici autour de cette table. Oui, j'ai fait beaucoup de choses, notamment sur le plan professionnel et puis dans le bénévolat aussi. Je crois que ceux qui sont là ont les mêmes qualités en ce qui concerne d'essayer d'aider les autres.
D'accord. Bon, mais par exemple, tu as été commerçant et puis tu as été aussi des jeunes avec ton activité là.
Oui, mais j'ai d'abord travaillé 10 ans à la BNCI qui est devenue BNEP. Puis après, pendant 20 ans, j'avais créé un hôtel-restaurant-discothèque avec la discothèque où on recevait 1 000 de personnes tous les samedis, 5 à 800 le dimanche, puis aussi le vendredi. Là, j'ai rencontré beaucoup de jeunes et puisque les discothèques sont un lieu de rencontre de jeunes essentiellement. Donc, je le voulais ainsi, et puis on essayait de faire que ça se passe bien. J'ai rencontré beaucoup de jeunes, oui, c'est vrai, puis j'ai fait partie de ceux qui ont créé Radio Villefranche. Les pionniers, c'était Marty, j'ai oublié son prénom,
et
Dominique Connac surtout. Voilà.
D'accord. Bon, et bien voilà, Émilie.
Bonjour, je suis Émilie, donc moi je fais partie du groupe d'animateurs de l'émission. Et je suis encore en activité, je suis infirmière à l'hôpital de la Chartreuse, dans l'unité Alzheimer.
D'accord.
Voilà.
Bien. Et tu as à peu près quel âge si, ça se, ça
alors,
se dit
voyons,
pas, ça
si je me souviens bien...
Non, mais en gros, hein.
Oui, non, je peux te le dire, j'ai 54 ans.
Voilà, d'accord.
T'es vieux?
Non, tu fais partie des jeunes cathos, parce que maintenant, les prêtres, ils ont plus de 75 ans.
Sauf pas tous, non. On en a un aujourd'hui qui est jeune.
Alors, Daniel.
Oui, Daniel Bobby, curé, alors ce qu'on dit curé, prêtre responsable de la paroisse où nous sommes, à Villefranche-de-Rouergue, paroisse Sainte-Émilie. Je suis prêtre depuis 25 ans.
Bon, et vous êtes, avant d'arriver à Villefranche, vous êtes passé par où?
Alors, j'ai fait plusieurs postes. J'ai été d'abord quand j'ai été ordonné en 1992, j'ai été à Baraqueville, sur le coin de Baraqueville. Ensuite, au nord du département, à Espalion, 6 ans. 6 ans à Sévérac-le-Château. Et vous voyez, c'est ma 7e année ici à Villefranche-de-Rouergue.
Et vos origines, c'est le nord Aveyron, je crois?
Oui, je suis Aveyronnais d'origine, oui. Du nord, à côté de Mur de Barès.
À côté de Mur de Barès. Bon, très bien. Alors, nous arrivons à Michel.
Oui, alors moi, c'est Michel Petit. Je ne fais pas partie de la paroisse. Je suis invité aujourd'hui pour, je sais pas, je crois que c'est pour... Mais Bernard vous expliquera. Je crois que c'est pour faire un peu de contradiction, pour montrer que on peut être à la fois laïque... Et catholique et puis s'entendre sur un certain nombre de choses. Moi, je suis retraité de l'enseignement. J'ai travaillé beaucoup à la Fédération des œuvres laïques. J'ai fait tout un tas de choses à la folle. Et je suis aujourd'hui à la retraite depuis longtemps, puisque j'ai 72 ans. Voilà.
Bon, mais je crois que ça situe un peu les participants. Alors, moi, j'ai prévu pour cette émission trois parties. Comment chacun de nous, concrètement, vit la fraternité. Et puis ensuite, nous parlerons un peu des origines de cette fraternité, son histoire, et puis la fraternité, comment elle se vit difficilement aujourd'hui. Et puis, dans la troisième partie, nous parlerons du 8 octobre, où il y a une réunion à Graves avec six ateliers où on parlera de la santé, de la faim, de l'écologie, de l'éducation, de la solitude et des gens qu'il faut aider et suivre, des étrangers, etc. Donc voilà un petit peu la structure de notre émission. Alors, commençons par notre vécu. Puisque j'ai la parole, je vais commencer. La fraternité, elle se vit, pour moi, avec les voisins. À côté de chez moi, il y a une dame qui, pendant pratiquement toute sa vie, a eu une sœur handicapée et qui s'en est occupée. Et qui, maintenant, son mari est parti, elle est soutenue par d'autres voisins, en particulier par quelqu'un qui a travaillé dans le bâtiment, qui était maintenant à la retraite, mais comme elle est toute seule, il lui fait son jardin, il lui coupe les haies, il mène le motoculteur, et il a plus de 80 ans, donc c'est sympa. À côté, au-dessus de ma maison, il y a les Fernandez. Au début, on s'entendait pas bien parce qu'ils voulaient se brancher sur mon poteau et j'étais pas tout à fait d'accord parce que les fils passaient devant chez moi. Et puis, on s'est entendu et maintenant, ils participent à l'Université des Savoirs Partagés. Donc, Marie-Jo Fernandez. Donc, elle est sympa comme tout. Donc, on s'entend bien avec les voisins. Alors, la fraternité, moi, je l'ai vécue par des engagements multiples. Par des engagements syndicaux, à la CFDT, politiques. C'est là que j'ai connu Michel, au Parti Socialiste. Et puis, dans beaucoup d'engagements associatifs. Alors, je suis à l'Université des Savoirs Partagés, mais je me suis occupé aussi des gens en fin de vie. L'ASP 12, où on suit vraiment les gens qui sont presque mourants. Donc, je me suis occupé longtemps de ça, et puis dans différentes organisations, je vais pas tout vous dire. Donc, les associations, ça a été ma deuxième université. J'ai appris beaucoup ce qu'était la vie. Dans les livres, on apprend, mais au contact des gens très différents, on apprend beaucoup. Voilà ce que je voulais dire un peu sur mon parcours. Alors, puis il y a aussi la famille. Et la famille, c'est pas rien, vous savez, la famille. Trois enfants, sept petits-enfants qui sont maintenant dispersés partout. Mais enfin, on s'entend bien. Ils élèvent bien leurs enfants. Bon, ils vont pas à la messe, mais c'est pas grave. Ils ont retenu quelque chose de l'aumônerie de l'enseignement public. C'est pas si mal que ça. Je sais pas qui veut prendre la parole sur le vécu de la fraternité, peut-être Michel.
Ah, si vous voulez.
Dis-nous un peu.
Alors moi j'ai eu un parcours un peu similaire dans le milieu associatif et politique, puisqu'on s'est connus là. Je n'ai pas eu le même parcours que lui dans le militantisme catholique, mais par contre, c'est vrai que c'est le milieu associatif et le militantisme sont une deuxième formation. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vrai que quand on a milité, où que ce soit, quand on a milité et qu'on a prôné la fraternité, la générosité et la laïcité, on se retrouve quelque part. Alors qu'on soit croyant, qu'on soit pas croyant et ou tout ce qu'on veut, il y a à un moment donné des passages où on va se rencontrer. Et c'est ça qui me paraît positif. Voilà ce que je voulais dire.
Tout à fait, ça c'est important, oui. On se nourrit des différences et au lieu de se heurter, ça
on
devient
se heurte
stérile.
Parfois, mais ça, conflit, il faut avancer les choses.
Oui, souvent. Mais le conflit maîtrisé, le conflit où derrière il y a de la bonne volonté, oui,
oui
il est nourrissant,
sûr,
sinon
sûr,
il est stérile.
Bien sûr, on ne va pas s'écharper.
Non, mais c'est vrai qu'il y a eu tellement, tellement d'antagonisme par le passé. Ouais. On pourrait faire
on
50
après.
Bouquins qu'aujourd'hui il vaut mieux essayer de voir quels sont les passages qu'on peut avoir ensemble par rapport à ces problèmes de générosité, de fraternité et de
ouais.
J'allais dire de charité, mais pas, c'est pas bon pour moi.
Surtout dans un contexte de peur, voilà.
Voilà, surtout dans un contexte de peur.
Et on peut converger, moi je le crois.
Oui, bien sûr.
Moi je le crois.
Je suis certain.
Nous sommes tous des êtres humains sur le même bateau.
Tout à fait, exact. Michel. Tout
avec
à fait.
Un capitaine.
Ah, voilà. Un croyante qui va nous dire quelques mots. Vas-y, prends le relais.
Donc oui, pour la fraternité, ben moi j'essaie de la vivre au quotidien, dans des petites choses, dans mon milieu de travail, avec mes collègues, ma famille, mes voisins aussi. Oui. Notamment, j'ai trois personnes âgées qui veuves. Il y a un monsieur qui est veuf et deux dames veuves qui vivent seules à la maison, qui sont autonomes. Ben, j'essaie de les visiter régulièrement et je sais que ça leur fait plaisir. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Mais bon, c'est vrai que je la vis beaucoup avec les gens qui me sont proches de cette fraternité. C'est peut-être pas suffisant parce que normalement, on fait partie d'une famille universelle. Donc, il faudrait l'étendre, ça même oui. Ce qui ne m'empêche pas de...
Mais, alors, le problème des Alzheimer, là, que tu suis, c'est pas rien, quand même.
Non, c'est pas rien. Non, c'est pas rien.
Non, mais tu arrives, parce que, moi je, quand mon père, à la fin, commençait un peu à... presque à délirer, hein, il me disait, Bernard, demain, hein, c'est la voir, hein, il faut que tu m'aides, là, hein. Bon... Mais j'ai vu à Rue donc des gens carrément là, qui perdaient le nord. Hein, comment tu le vis,
nord,
ça?
Le sud, ils perdent tout.
Oui.
Mais par contre, ils fonctionnent à l'affectif. Ils fonctionnent à l'affectif.
Ouais,
et là, on peut faire preuve de fraternité. C'est vrai que c'est pas facile, hein, parce que nerveusement, il faut être assez solide. Mais j'aime beaucoup ce que je fais. J'aime beaucoup ce que je fais, même si parfois c'est un peu épuisant. J'aime beaucoup ce que je fais. Ouais.
D'accord.
Et c'est vrai qu'il y a plein de...
J'aime ce ton de voix calme que tu as.
Merci Michel. Oh mes frères, ils sont charmants avec moi.
Salut Michel.
Bon, je vais prendre le relais.
Oui, prends le relais.
Puis on va garder Daniel pour la bonne bouche, pour la fin.
Spécialement.
Non, moi je voudrais dire que la fraternité exige l'ouverture d'esprit. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Elle s'épanouit dans l'amitié, la fraternité. Elle se nourrit de l'amitié.
Mais toi, tu viens d'un milieu rural, Malleville, là, c'est pas rien quand même.
Je suis né dans un milieu rural, effectivement. Mais mon père était commerçant, c'était un petit épicier, café, restaurateur de campagne. Ses commerces, où il y avait de tout.
Ouais.
Beaucoup de métiers et grande misère. Il était considéré comme étant le riche de la commune, alors qu'il fallait que les autres soient bien pauvres pour que lui se considérait comme étant riche, parce qu'il n'a jamais pris de congé ni de quoi que ce soit. On n'a pas souffert la faim, loin s'en faut. Mais enfin, bon, la richesse, franchement, non, c'était pas le cas. Surtout si on compare à ce qui se passe maintenant, où on a quand même du bien-être qu'on n'avait pas auparavant. Il suffit de réfléchir à ce que vivaient nos grands-parents. Ils n'avaient pas tout ce que nous avons. Et Dieu merci, il faudrait
ouais.
Quand même s'apercevoir que nous avons ce bien-être.
Mais moi, quand je parle de Malleville, je pense au foyer rural de Lalo et ce qu'ils font avec le Burkina Faso, les pays du Sahel et tout ça. Tu es au courant un peu de ce qu'ils font là?
Oui, la ferme de Guier, qui a été lancée par Élisée Viguier,
oui.
Avec notre ami, je cherche son nom là, qui est très âgé là. J'ai fait un article sur eux, je ne me rappelle pas de son nom, je m'en excuse.
Bon, c'est pas grave.
Mais ce sont des gens qui sont en pleine de bonne volonté, comme toute personne ici autour de cette table,
oui,
devant les micros.
J'ai entendu parler aussi de ceux qui s'occupent de l'église de Sabadell. Tu es au courant, là?
Ben oui, parce que j'en fais partie, ce sont les amis de Malleville.
Oui.
C'est une église qui avait été presque détruite dans les années 50, où on ne faisait pas trop attention au patrimoine. Et là, maintenant, il y a le souci de relever les ruines, mais il s'agit bien de ruines.
Oui, vous êtes parti de très bas. Hein.
Oui, mais...
C'est la végétation qui avait...
C'est ça, oui. Moi, je suis allé avec d'autres décapiter les ronces. Bon, j'y suis moins allé les derniers temps. Mais là, il y a des jeunes tous les ans qui viennent, des jeunes de pays différents. Ils viennent de partir il n'y a pas très longtemps et ils sont là gratuitement. Hein. Ils sont là, ils payent pas mal de choses. Hein.
Ils apprennent à tailler la pierre, ils apprennent choses.
Ils travaillent en même temps qu'ils apprennent. Ils sont entourés de gens, eux aussi bénévoles, qui sont férus dans leur métier. Et de tout ça avance tranquillement. Pas vite, c'est vrai. C'est pour ça que je dis tranquillement, mais ça avance quand même. Et on peut pas aller vite avec des gens qui apprennent, qui sont là pour peu de temps. Mais bon, les ruines, petit
d'accord.
à petit, se relèvent.
Et dis-moi, toi, avec les jeunes, là, parce que souvent, on nous dit que pour rentrer, là, dans... Il y a des baraquets qui empêchent de rentrer.
Dans les discothèques?
Oui, dans les discothèques, là, je pensais
bon,
à ça.
Bon, moi, j'ai jamais utilisé le terme videur parce que c'était des surveillants. Moi, j'avais un surveillant dans chaque salle.
Mais tu avais des surveillants salles, quand même, parce que...
Mais c'est obligé, ça, parce que j'avais mis un système où par des codes, on était là. D'abord, c'était moi qui y allais d'abord, hein. J'essayais de discuter. J'essayais de régler le problème au travers de la discussion. Je me rappelle le médecin qui m'avait dit, tu arrivera pas. J'y suis arrivé, mais c'est vrai que ça m'avait un peu démoli le... Je sais pas s'il en reste des séquelles, mais le métabolisme des nerfs, j'avais quand même tiré là-dessus.
D'accord.
Non, mais parce que je voulais les respecter, il y avait des mamans qui amenaient leurs filles en disant, je sais qu'ici elles seront bien, bien protégées, et nous, on n'acceptait pas que les gens se couchent sur les banquettes, comme ça se fait beaucoup maintenant, on n'acceptait pas beaucoup de choses, quoi. On pouvait pas empêcher de fumer, mais on faisait tout ce qu'on pouvait pour qu'ils ne boivent pas trop, pour qu'ils ne boivent même pas du tout, mais...
Parce que moi, mon voisin, il est mort à 18 ans en revenant de discothèque. Pas de la tienne, mais
c'est ça.
Parce qu'il avait sûrement un peu plus.
Mais non, ce qui se fait de plus en plus, c'est quelqu'un qui est désigné dans le groupe et qui ne boira pas.
Qui
ramène les autres. Ou même les parents, des fois, qui se dévouent pour dire, si vous buvez, on vient vous chercher.
Enfin, je terminerai en ce qui me concerne pour dire que le dialogue véhicule la fraternité. Quoi. Je suis content qu'il y ait aujourd'hui Michel Petit, que je ne connaissais pas beaucoup, mais qui peut paraître quelqu'un dont on ne peut pas discuter les qualités d'humanisme.
Il est complet.
Non, parce qu'il faut dire que...
Vas-y, Michel, réponds.
Il faut dire que notre ami Michel Petit est le seul incroyant autour de cette table et nous sommes cinq. Enfin, nous allons l'accueillir avec gentillesse. J'espère qu'il va rendre les coups.
N'ayez pas peur pour moi. Rassurez-vous.
Daniel.
Je prends le relais.
Oui, Daniel, vas-y.
Oui, alors du coup, moi, comment je vis la fraternité? Alors c'est vrai que moi, je pense qu'une communauté chrétienne est d'abord et avant tout une communauté de frères et de sœurs. Et moi, je suis particulièrement émerveillé parce qu'on agit au quotidien dans les communautés, dans la communauté chrétienne, ici à Villefranche ou ailleurs, mais justement avec beaucoup de bénévolat. C'est avant tout le bénévolat. Et ça, c'est source de fraternité, je crois. Alors donc, que ce soit avec des enfants, que ce soit avec des jeunes, ou avec des adultes, dans le cadre de la préparation des sacrements, dans les mouvements et les services de l'Église, partout se vit cette fraternité au quotidien, quoi. Et donc, moi, j'ai pris quelques exemples que je constate, en fait, au quotidien. D'abord, un exemple familial. Mes parents sont tombés malades il y a peu de temps. Mon père a été hospitalisé pendant 3 semaines. Et j'ai été impressionné par justement cette qualité des voisins. Alors, il y a une bonne relation à Entrailles, là où sont mes parents, mais j'ai été impressionné par les voisins qui ont pris souci d'eux, mais aussi de la maison, des bêtes. Voilà, ça, ce sont des petites choses très simples, mais moi, je trouve basiques. Un autre exemple, je pense à un groupe de pastoral des migrants ici, sur Villefranche, qui avec d'autres, essaye de soutenir moralement et aussi matériellement des réfugiés. Voilà. Et donc ça suppose aussi beaucoup d'investissement de leur part. Je pense aussi à toutes ces personnes qui acceptent bénévolement de visiter des personnes malades ou âgées ou handicapées. Et bien voilà, là aussi c'est du temps consacré pour une fraternité vécue Voilà. Et je pense aussi, par exemple, à quelqu'un, je citerai pas le nom, parce que bon, je pense que c'est par discrétion, mais qui aide aux devoirs aux enfants, je pense à l'ASCO, par exemple, qui aide aux devoirs des enfants pour du soutien scolaire. Voilà, c'est autant d'exemples très précis, très concrets, mais qui construisent justement cette fraternité au quotidien.
L'ASCO étant une association.
Oui, c'est vrai.
D'accord. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. On va écouter Brassens avec les copains d'abord.
Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergiture, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sort, aux jeteurs de sort. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voix de dehors, toute voix de dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, leur bras lançait des SOS, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, il n'y avait pas souvent de lapin, quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'autre se refermait. 100 ans après, coquin de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Donc, nous sommes à l'heure du carillon, sur le thème de la fraternité, à CFM 90.2 Villefranche. Et donc,
Radio-Présence.
Et aussi Radio-Présence qui prend le relais, parce que... Donc, on nous entend d'assez loin, parce qu'effectivement, la faille de Villefranche empêche le son de partir vers Yeux-Pérouse. Alors... les origines de la fraternité, moi ce qui m'a frappé en lisant un peu Régis Debray, qui a écrit Le Moment Fraternité, Régis Debray, il dit que dans la préhistoire et l'Antiquité, il n'y avait pas vraiment de fraternité. Par exemple, au Néolithique, les cultivateurs ont exterminé les chasseurs-cueilleurs. Par exemple, les Romains et les Grecs, je cite Aristote, on est maître ou esclave par nature, disait-il. Et puis, c'était des sociétés esclavagistes, quand même, il faut quand même s'en rappeler. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, il y avait 35% d'esclaves à Rome. Et donc, ces esclaves étaient essentiellement des prisonniers de guerre. Alors évidemment, ils se révoltaient. Il y a eu Spartacus, tout le monde connaît Spartacus qui s'est révolté, mais entre Capoue et Rome, il y a eu 6000 crucifiés. Et ça a calmé le jeu, hein, immédiatement. Hein, les révoltes se sont calmées. Donc l'Antiquité n'a pas connu tellement la fraternité. Alors, à mon avis, Jésus et Saint Paul ont été à l'origine de cette fraternité. puisque ils ont dit, alors je ne me rappelle pas exactement le terme de Saint-Paul, mais il disait, il n'y a plus ni homme, ni, enfin en matière d'égalité, ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre, exactement oui, la
c'est
citation.
Ça, c'est ça, hein, c'est bien, c'est ça, ça, c'est bien
hein.
Ça.
Bon, d'accord. Donc là, j'ai lu... j'ai lu Saint-Paul, mais je lis aussi Badiou, qui fait référence, qui a écrit tout un livre sur Saint-Paul, et qui dit « ça, c'était révolutionnaire, dans une société hiérarchique hein. ». Donc, ça, c'est quand même très, très, très important.
Il y aura d'autres citations de Saint-Paul aussi, qu'on verra plus tard aussi.
Oui, mais, donc, au Moyen-Âge, on était dans une société très hiérarchique, et là où on vivait la fraternité, c'était dans les monastères. Et il y a eu aussi la réforme grégorienne qui a permis, quand le clergé ça allait un peu dans tous les sens, il a remis les choses à l'endroit. Et puis il y a eu, quand les villes se sont développées, il y a eu Saint François d'Assise. Notre pape se réfère à lui parce que c'était, il a tout quitté. Hein, il s'est mis, il a quitté même ses vêtements. Il a laissé ça à son père. Et il est parti avec toute une équipe dans les villes prêcher la fraternité.
Moi, je trouve que tu dis des choses importantes là. J'en découvre certaines parce que quand j'étais jeune, moi, j'ai subi un petit peu. Pardonne-moi, mon cher père Daniel. J'ai subi un petit peu l'interdit de par la religion. Ça m'avait quand même un petit peu bloqué et gêné dans mon épanouissement personnel. Mais d'entendre dire ce que tu viens de dire, à savoir que c'est quand même Saint-Paul, l'enseignement du Christ, qui a mis à l'ordre du jour dans les relations entre humains la fraternité, c'est quand même quelque chose de très important. Et n'oublions pas de dire que le Christ aussi, il a redonné à la femme sa place qu'elle devrait avoir.
Oui. Alors, c'est pas vrai, encore tout à fait mais seulement, le christianisme aussi a dévié par rapport à la bonne nouvelle. Parce que quand même, il y a eu les croisades, il y a eu l'inquisition, voilà. il y a eu tout ça. Alors ça, n'aie pas peur, je ne l'oublie pas.
Ça veut dire aussi,
je suis professeur d'histoire.
Oui, mais il ne faut pas l'oublier.
Faut le dire aussi. Si vous permettez, quand même, Caïn et Abel, rappelez-vous Caïn et Abel, dans la Bible, même avant le Christ, hein, c'est quand même, voilà. Caïn et Abel, rappelez-vous, qu'as-tu fait de ton frère? Première question de Dieu dans la Bible. Qu'as-tu fait de ton frère? Et bien la réponse, c'est de Caïn qui tue Abel, c'est suis-je gardien de mon frère? Vous voyez, donc on en est toujours là, hein, dans la... Enfin, je veux dire,
oui, dans l'Ancien Testament, il y avait cette... Et les prophètes aussi ont dénoncé...
Voilà, le manque de fraternité et d'attention.
Tu parlais tout à l'heure, Daniel, de Saint-Paul. Tu disais qu'il y avait autre chose à citer.
Oui, parce que moi, je trouve, par exemple, Saint-Paul, quand il a dit, dans 1 Corinthiens 12, quand il parle justement de l'amour, hein, vous voyez, ce beau texte qui est souvent pris dans les mariages, il dit, qu'est-ce que c'est qui restera? C'est l'amour, voilà. Ce qui restera, l'amour est éternel. L'amour ne passera jamais. Donc déjà, voilà, je trouve que ça donne du sens à la fraternité.
Voilà, c'est ça, c'est l'aboutissement de la fraternité, l'amour.
Mais
voilà.
Que l'amour ne passe.
Concrètement, moi, alors j'ai lu le philosophe Ferry. Il dit dans les campagnes au Moyen Âge, c'était quand même surtout des mariages de raison. Et on essayait de
rassembler les terres.
De rassembler les terres, c'était ça qui était essentiel.
Mais comme les rois à une autre échelle. Hein.
Et donc, Ferry va loin, lui il dit, mais contrairement à ce qu'on croit, c'est le capitalisme qui a libéré les hommes, parce que les paysans, quand ils ont été travaillés avec la révolution industrielle dans la ville, il n'y avait pas le poids
de l'histoire, du village, de tout ça,
où on était surveillé quand même. Là, finalement, on est passé plus facilement à ce que demandait l'Église, du mariage de raison au mariage d'amour. Mm-hmm. Finalement, c'est bizarre.
Mariage libre, quoi.
Et oui, ça m'a paru important. Mais alors, il y a eu l'influence de la religion vers la fraternité. Il y a eu l'influence de la science, quand même, au XVIIIe siècle, la philosophie des Lumières, moi j'ai lu qu'en Angleterre, la moitié de la population, à la fin du XVIIIe siècle, savait lire et écrire. Ouais. Et ça, c'est grâce à la science que des progrès ont été faits. Et puis, il y a eu les révolutions, avec le double... la violence et la fraternité. Exemple, hein, je prends que, m'excuse, le professeur d'histoire, je suis obligé quand même de dire des choses. Il y a eu la nuit du 4 août quand même où il y a eu la suppression des privilèges. Mais pourquoi il y a eu la suppression des privilèges? C'est que les paysans s'en sont pris au châtelain. Ils se sont dit, si on fait pas un effort, on va y passer. Donc, c'est ça qui a permis l'abolition des droits féodaux et des inégalités fiscales. Il y a eu ensuite, dans la Révolution, la suppression de... On a demandé la suppression de l'esclavage, qui a été remis ensuite par Napoléon. Ça, c'est quand même important. Après 1848... 1800...
Alors, si je peux me permettre, oui, c'est vrai que la fraternité... Elle ne fait pas partie des droits de l'homme. Le mot fraternité n'apparaît pas dans les droits de l'homme. Il n'apparaît qu'ensuite, en 1848. Hein,
c'est, oui, et entre, oui, c'est
voilà.
Ça.
Donc c'est intéressant parce que le terme fraternité...
Ni le terme laïcité n'apparaît pas.
Non, bien sûr. Voilà. La laïcité était... De toute façon, on n'en parlait même pas de la laïcité. Il n'était pas question. Donc elle a été, bien sûr, établie beaucoup plus tard, y compris... Le mot de fraternité dans les textes, oui, bien sûr.
Lorsque j'étais petit, lorsqu'on parlait de la laïcité, c'était pas un mot aimable. Alors que la laïcité nous a quand même libérés de certaines contraintes qu'elle a amenées. Et la laïcité, à mon avis, moi croyant, elle est absolument indispensable.
Séparation de l'Église et de l'État, oui.
Voilà, c'est pas ce qu'on m'a appris, mais...
Déjà fondée dans l'Évangile, hein. Voilà, ouais. Quand tu rendais à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu.
Bon, de rencontrer des gens qui étaient des laïcs... Mais
non, ça c'est quand même un raccourci, ça. C'est un peu un raccourci, César et Dieu.
Moi je le tiens de Jésus dans l'Évangile.
Oui, d'accord. C'est pas aussi simple que ça.
Exprime-toi, Michel.
La laïcité, pour gagner la bataille de la laïcité, il a fallu longtemps aussi.
Oui, c'est vrai.
Beaucoup de temps, de sueur et de larmes.
On s'est battu en 1905, oui.
On s'est battu avant. Les chouans, ça existait aussi.
Aujourd'hui, la situation.
Au nom de la religion, hein, les chouans. Mmh. Bon, enfin, bref.
Mmh. Non, mais il faut le dire.
Mais il y a eu aussi la terreur, quand même, avec beaucoup de dégâts, quand même.
C'est sûr, on est bien d'accord.
La révolution.
D'accord.
Mais 1848, il y a eu aussi les ateliers nationaux où on s'est rendu compte qu'il fallait donner du travail aux chômeurs. Seulement, ça durait que 3 mois.
Voilà.
Hein,
hélas, oui, hélas.
Voilà. Mais après, il y a eu, je le rappelle, en 1864, sous Napoléon III, qui avait fait son coup d'État, mais qui a donné le droit de grève. 1864. Et puis après, il y a eu la Commune en 1871, où là aussi, il y a eu la Semaine sanglante, mais à Paris, on se préoccupait des blessés, des pensions, des orphelinats, on a distribué des repas, les femmes, Louise Michel, demandaient l'égalité des salaires. Il y a eu dans certaines municipalités à Paris l'enseignement gratuit et obligatoire. Donc tout ça, c'est des avancées qui se sont réalisées un peu plus tard avec Jules Ferry en 1881, qui quand même, ça me paraît très très important. Et puis après, il y a eu la loi de séparation de l'Église et de l'État qui a été mal vécue. Parce que quand même...
Quitte pas facilement les
privilèges. Il y a eu des excès.
Il y a toujours des excès dans ce genre de situation et de toutes parts. Ça a toujours été comme ça. On pourrait reparler de la Saint-Barthélemy aussi.
Oui, absolument.
On a tellement de choses à voir.
Oui.
Mais bon.
Non, mais on ne peut pas parler.
C'est vrai que notre débat aujourd'hui, c'est d'essayer de voir comment la fraternité catholique chrétienne peut rejoindre la fraternité laïque. Qui est la mienne. Vous êtes des frères et des sœurs. Vous êtes aussi des frères et des sœurs pour moi, même si je ne suis pas dans la communauté catholique. Et donc, il me semble que c'est ça qui est intéressant. C'est de voir comment, on parlait de fossé, comment le fossé qu'il pouvait y avoir entre la fraternité religieuse et la fraternité laïque, enfin laïque, athée, pouvait se rejoindre à un moment donné. Et ça me paraît très important. Alors, ça veut dire que si jamais on en restait sur des positions anciennes par rapport à la liberté, la fraternité, l'égalité, la générosité, la charité, on ne s'en sortira pas. Donc il faut essayer de voir comment nos communautés respectives, parce que moi je fais partie d'une communauté aussi, la communauté des athées, comment nos communautés respectives peuvent se retrouver sur un terrain fraternel. C'est ça qui me paraît très important. Voilà.
Et on va y arriver à aujourd'hui, voilà, parce que on est menacé par la barbarie.
Exactement.
Et donc.
Et de tout part.
Oui. Oui, mais peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Oui. Mais moi, je trouve que là, on peut, qu'on soit chrétien ou athée, je crois qu'on s'entend, on peut s'entendre sur quelque chose qui est basé sur la science. Comme dit quelqu'un, on est des poussières d'étoiles. Oui, on n'a qu'une planète. Je trouve que donc on est condamné, excusez-moi le terme, mais on est condamné à s'entendre, quoi, à vivre ensemble.
On a longtemps passé du temps à pas s'entendre du tout.
C'est vrai, ouais, c'est vrai.
Et donc si on peut faire des progrès là-dessus, ça serait quand même intéressant.
Oui, mais il faut tourner notre regard vers l'avenir. Et c'est vrai que ce qui est important aujourd'hui, au regard de toutes nos fautes passées, de tous les côtés, c'est ben justement de mettre dans la main, d'avancer et de trouver des solutions pour sauver notre maison commune, comme dit notre cher pape.
Tout à fait.
Ouais, mais enfin, il y a un truc quand même qui me paraît, moi, aujourd'hui fondamental par rapport à notre entente future, c'est la montée des islamismes radicaux qui font qu'aujourd'hui, la religion, on la repousse. On dit, voyez ce que ça donne, les fanatismes religieux, ça donne ça.
Ça donne ça. Mais il ne faut pas faire d'amalgame, comme on le dit pour l'islam.
Exactement. Donc si on ne veut pas faire d'amalgame, il faut qu'à un moment donné, les communautés chrétiennes et les communautés laïques, athées, puissent se rencontrer sur des terrains, effectivement, la fraternité, la générosité,
la solidarité.
La solidarité.
Et alors, moi, ça
me paraît fondamental.
Je voulais en arriver au XXe siècle, parce que ça a été ce terrible, les deux guerres mondiales, 10 millions de morts en 14-18, et puis on est passé à plus de 30 millions de morts en 39-45. Donc, enfin vraiment, le progrès, où il est, quand on en arrive à des... Mais, les poilus, ils ont connu la fraternité dans les tranchées. Les résistants, ils ont connu la fraternité face au nazisme. Et ils ont fait chrétiens, ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. Ils ont su, finalement, évacuer les bêtises du régime, enfin, les horreurs du régime de Vichy sur les juifs et sur tout ça, pour arriver à cette fraternité.
On ne peut pas passer sous silence en 14-18, là, le soir de Noël. C'est connu, mais enfin, il est bon de le redire. Voilà, lors de tranchées,
la trêve de Noël,
c'était magnifique, c'était extraordinaire.
Ensemble.
Et quand on voit comment ça s'est terminé, pour vous dire la barbarie, de quel côté elle était, ça s'est terminé que les gens qui s'étaient rencontrés, qui avaient fraternisé, eh bien, ils se sont retrouvés devant les tribunaux. Il y en a certains qui ont été tués. C'est absolument abominable. C'est le comble
de
l'absurdité. Voilà, c'est fou.
Il y en a qui ont été fusillés pour avoir fraternisé les ennemis.
Et pendant longtemps, c'était tabou, ça, on n'en parlait pas. Il a fallu attendre.
Il y a un film qui est remarquable là-dessus, je ne me souviens pas comment il s'appelle.
Tout à fait. Alors, je voulais parler aussi, puisqu'on parle du XXe siècle, il y a eu, pour les gens de gauche, il y a eu le Front Populaire, les congés payés. Quand même, ça a été une avancée considérable, quand même, pour des gens qui, comme ton père, ne prenaient jamais de vacances. Les gens qui ont vu la mer pour la première fois et qui ont...
Mon père n'est toujours pas parti en vacances, mais il est vrai que s'il n'y avait pas eu le Front Populaire... s'il n'y avait pas eu le Front Populaire, je suis tout à fait d'accord avec toi. Eh bien, je pense que les congés payés auraient dû attendre encore pas mal de temps. Et c'est pour ça que je trouve important ce plus que l'on a aujourd'hui à pouvoir se rencontrer, par exemple, avec Michel Petit et d'autres gens comme lui.
Alors, je voudrais dire aussi qu'il y a eu... parce que moi, je l'ai vécu, mai 68.
Voilà, là, c'est... faut pas l'oublier, ça.
Ah, oh, non, mais j'y arrive.
Faut pas oublier,
n'aie pas peur. Mai 68, il y a eu les accords de Gramnel, où on a obtenu quand même, des augmentations de salaire, le SMIC, l'amélioration des retraites, la baisse de la durée du travail, des avancées féministes. On a parlé d'autorité parentale. Développement des cultures régionales, réforme de l'université. Les élèves ont été peut-être plus actifs, ce qui a remis un peu en question les profs, hein, qui balançaient la bonne parole et les autres, ils devaient écouter. Et bon, donc il y a eu tout ce mouvement qui a été important. Alors, évidemment, on peut le remettre en question, il y a eu peut-être des excès, mais on a besoin d'autorité, moi je dis pas le contraire. Mais quand même, ça a fait évoluer des choses. Voilà. Alors aujourd'hui, j'en arrive à aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est la montée du populisme, c'est ce grand repli. On avait un espoir de construire l'Europe, et puis on revient maintenant aux frontières, et même certains disent, on vit comme Dieu n'existait pas en Europe. Et c'est plutôt l'Afrique et l'Amérique latine qui prennent le pas sur l'Europe qui, finalement, abandonne un peu la croyance. Il a fallu attendre Jean-Paul II pour la repentance, hein, de l'Inquisition, de tout ça. Et lui, il nous a redonné l'espoir, et le pape actuel encore plus. Il parle de nouvelle évangélisation, qui ne... qu'on n'en aurait pas tous ceux qui sont en dehors du système religieux, mais qui on va maintenant vers Michel en parlait à l'instant, vers cette jonction de la fraternité laïque et de la fraternité chrétienne. Tout ça me paraît très très important.
Et même la fraternité entre les différentes religions.
Oui, alors ça, c'est l'écuménisme et l'interreligieux, on le vit à Villefranche, on rencontre les protestants, et même on a eu des rencontres avec les musulmans. Donc, ça s'est pas su, mais il y a eu, après... Donc, ça me paraît très très important.
Les vieux ne rêvent plus, leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés. Le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter. Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides, leur monde est trop petit. Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil, et puis du lit au lit. Et s'ils sortent encore, bras dessus, bras dessous, tout habillés de raide, c'est pour suivre au soleil l'enterrement d'un plus vieux, l'enterrement d'une plus laide. Et le temps d'un sanglot oublié toute une heure, la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui les attend. Les vieux ne meurent pas, ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps. Ils se tiennent la main, ils ont peur de se perdre, et se perdent pourtant. Et l'autre reste là, le meilleur ou le pire, le doux ou le sévère.
Alors, donc, nous sommes toujours sur le thème de la fraternité, à CFM 90.2, et notre dernière partie débouche sur l'actualité de la semaine, c'est qu'il va y avoir le 8 octobre, donc samedi, de 15h à 18h, des ateliers sur la fraternité. Il y aura 6 ateliers, où se mêleront d'ailleurs des associations chrétiennes et des associations laïques, sans problème, où on va parler d'écologie, parce que quand même notre planète est en danger si on continue au productivisme à tout va, la maison commune. On va parler des étrangers, parce que le problème des migrants, c'est quand même le problème essentiel de l'actualité. C'est le scandale de milliers de gens qui meurent en Méditerranée. On va parler des problèmes de santé. On va parler de ceux qui sont nus, qui ont faim. Et il y a quand même des associations à Villefranche qui s'en occupent. On va parler de la fin de vie. Toutes sortes d'ateliers où on va se rencontrer pour justement montrer que maintenant le fanatisme religieux quand même au niveau du christianisme, on l'a évacué, alors que l'islam n'en est pas encore là. J'espère qu'ils y arriveront. Ils ont un peu de retard, mais ils vont y arriver. Moi, je pense que, enfin, la majorité des musulmans en France sont des gens qui vivent bien la coexistence avec la France d'aujourd'hui. Donc, ces ateliers du 8 octobre me paraissent très importants parce que c'est pas pour les croyants, il n'y a pas que le culte, la messe du dimanche, mais il y a et ça c'est porté. C'est une différence avec les laïcs. La prière nous pousse à nous investir pour plus de fraternité. Et si les chrétiens ne mettent pas en application la bonne nouvelle dans leur vie, alors je crois que on les croira plus. Et ils sont à côté de la plaque. Et ça, on va en discuter quand même le mercredi 8 octobre. Peut-être Daniel, qui est à l'origine de cette journée, il va nous en parler un peu là.
Oui, donc un peu à l'origine du projet, il y a trois choses. En fait, c'est un peu souligner toutes les initiatives qui vont dans le sens du service du frère. Donc de la solidarité, mais de la fraternité au sens large sur notre territoire. Ça, c'est un premier aspect. Il y a un deuxième aspect, c'est on fête cette année le 50e anniversaire du diaconat permanent, du rétablissement du diaconat permanent. C'est-à-dire, le diacre, c'est celui qui est signe du service, justement. Et la troisième chose, c'est qu'on est, voulu par le pape François dont on parlait, on est dans l'année de la miséricorde. Et donc, il nous invite, le pape François, à œuvrer concrètement, dans des œuvres de miséricorde. Donc, c'est les trois éléments qui sont à la source du projet, et donc qu'a précisé Bernard à l'instant là. Donc ces ateliers seront tournants, et on va essayer de découvrir tout ce qui se fait, donc dans le cadre de la solidarité, de la fraternité, ce samedi, quoi.
Alors non seulement à Villefranche, mais dans ce qu'on appelle le doyenné.
Voilà.
Hein, et ça, qui
toutes
va...
les paroisses de l'Ouest Aveyron, du Villefranchois, ce qu'on appelle au sens large du Villefranchois, sont invitées donc au château de Graves. C'est de 15h à 18h, je le précise parce qu'on l'a pas dit jusqu'à présent, mais c'est de 15h à 18h au château de Graves. Voilà.
Voilà, et donc tout le monde est invité.
Tout le monde est invité, hein, voilà, il y a les associations qui sont invitées, les mouvements aussi d'église, et puis tout le monde, quel que soit
absolument
leur âge.
Absolument, oui, oui. Alors ça me paraît quelque chose de très important. On m'a dit, une sœur de la Sainte Famille qui fait partie de la pastorale des migrants et qui fait partie de tout un réseau avec le Secours Populaire, avec la Ligue des Droits de l'Homme sur les migrants. Là, il y a une convergence. Hein, là, vraiment, on a un exemple précis de cette convergence contre la barbarie. Parce que quand même... C'est énorme ce qui se passe aujourd'hui, où on laisse mourir des gens, où on élève des murs, des barrières, et dans la Bible, l'accueil de l'étranger, c'est fondamental, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau.
On fera remarquer que la Fédération des Avants Laïcs va accueillir 34 migrants dans son centre de Pont-de-Salard, à partir de la semaine prochaine.
Très bien.
Voilà,
alors, donc,
c'est tout.
Oui.
Et alors, que c'est pas... Si tu veux, c'est me paraît un acte naturel, même si on n'est pas croyant.
C'est
ça, si vous voulez, ma présence ici, elle est là. Moi, je voudrais qu'on fasse. Je vous ai fait remarquer, je vous le fais remarquer à nouveau, que ma charité, ma fraternité à moi, elle est un peu différente de la vôtre. C'est que moi, quand j'aide mon prochain, quand j'aide mon alter ego, la récompense, elle est dans ses yeux. Pour vous aussi, j'en suis sûr. Oui. Mais il y a une arrière-pensée quand même qui est le paradis pour vous. Et ça, je crois qu'il faut quand même pas qu'on le gomme. Hein? On ne fait pas le gommer, ça. Voilà.
Alors moi, je réagirais un peu par rapport à ça. On n'agit pas que par rapport au paradis. Alors oui, parce qu'on sait que l'amour ne passera jamais. En ce sens-là. Mais nous, on réagit, pour moi, chrétien, j'agis aussi au nom de Dieu, voilà. Au nom du Christ qui m'a dit, tout ce que tu as fait au plus petit, c'est à moi que tu l'as fait.
Et donc, c'est pas
pour demain.
À ma droite.
Ah non, mais c'est pas pour demain seulement. C'est aussi pour aujourd'hui.
Oui,
parce que le Christ nous dit, tout ce que tu as fait, C'est à moi que tu le fais. Donc, au quotidien, maintenant, aujourd'hui. C'est maintenant et aujourd'hui que ça se passe. Moi, l'avenir, l'au-delà, il se prépare, moi, dès maintenant. C'est pas...
On est d'accord. Voilà. Non, mais, simplement un mot de plus. Moi, j'ai eu une éducation catholique profonde. Profonde. J'ai même été enfant de cœur. J'avais des grand-mères qui faisaient la charité tous les jours. Mais elles faisaient la charité avec toujours une arrière-pensée, avec mon
Mais
Dieu.
Parce qu'on les avait éduqués
oui,
comme ça.
Vous oui. me prendrez, s'il vous plaît, à côté de vous. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est quand même, il y a quand même des séquelles là-dedans. Alors, vous pouvez pas le nier ça. Il y a chez les catholiques et chez les chrétiens une espèce de d'arrière-pensée. Non, pas d'intérêt. C'est, je sais plus.
Je récompense
l'intérêt. Mais c'est tellement ancré que. Voilà, c'est
de récompense,
ça.
Alors on
voit. De récompense.
Oui, mais alors donc, mais Jésus
n'est
pas.
C'est dans, tout, c'est tout.
Mais Jésus dans l'Évangile n'est pas du tout dans ce registre-là. Non. C'est pas. Il est. Non. Quand par exemple dans cette histoire du bon Samaritain qu'on connaît tous, hein, celui qui a été voilà et qui est au bord du chemin.
Blessé au bord ouais, du chemin.
Et donc parce que sur la question d'un docteur de la loi qui lui dit qui est mon prochain, voilà, qui est mon prochain, mais Jésus lui dit de qui tu te fais proche toi au quotidien, voilà, de qui tu te fais proche. Il nous renvoie à notre responsabilité justement. Humaine simplement enfin et donc je trouve que enfin du coup moi je pose pas les deux je pose pas pour moi c'est pas une histoire de récompense c'est une histoire de vie
pas,
au nom
je pose pas je dis simplement qu'il faut pas le nier voilà. Et l'oublier parce qu'il y a quand même oui. Chez vous chez certains de vos praticiens pardon, qu'est-ce que je dis certains de vos
pratiquants
de vos praticants et de vos voyants des gens qui sont encore là j'en connais moi personnellement
oui mais c'est possible
des vieilles personnes qui voilà bon donc ça je crois qu'il faut pas qu'on le nie et quand on va se retrouver là sur une solidarité, une fraternité commune, faut pas qu'on l'oublie, quoi, je veux dire.
Oui, mais tu sais, Michel, peu importe au nom de quoi, avec quelle pensée il faut le bien, l'essentiel, c'est de faire le bien. D'être bon, d'être
ouais,
frère fraternel.
Oui, ça,
mais bon,
peu
importe.
Moi, je vais te dire...
Peut-être, oui, t'as raison.
Moi je vais te dire, très, très honnêtement, parce que il y a un mystère de la mort et de ce qui se passera après.
Oui.
Alors, il y a eu un ressuscité, mais c'est l'unique, quoi. Hein. Donc, même pour des chrétiens qui essaient de vivre la bonne nouvelle du mieux possible, si tu veux, ce qui se passera après la mort, ça reste un mystère. Ouais. Et donc, c'est pas ça qui me fait vivre, hein. Alors là, vraiment pas du tout.
Bernard, vous n'avez pas enlevé de vos textes que les gens qui monteront au paradis sont assis à la droite de Dieu. C'est toujours dans vos textes, ça.
Oui, que, tout à fait.
Mais je veux dire que là, par exemple, sur le jugement dernier, on connaît Conque, le tympan de Conque. Bon, ça illustre Matthieu 25.
D'accord.
Et donc, justement, c'est j'ai eu faim, tu m'as donné à manger. J'ai eu soif, tu m'as donné à boire. J'ai été nu, tu m'as vêtu. Et tout ce que vous avez fait au plus petit, entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, c'est dans cet esprit-là. Alors moi, sur la résurrection, bien sûr, moi, je crois que l'amour passera jamais. Ça veut dire que ce que j'ai fait maintenant, ce que j'ai fait au plus petit, c'est, oui, ça restera pour toujours. Moi, je le crois. C'est ça qui reste. Moi, je crois que l'amour...
Ça s'arrête pas à la mort, on croit à l'éternité.
Voilà, non, mais c'est une parenthèse, il faut pas qu'on en rajoute.
Non,
quand même à la faire. Voilà.
Oui, tu as raison.
Non, mais cette intervention me faisait penser ce que j'ai dit l'autre jour en préparation, que à mon avis, les gens qui sont incroyants ont plus de mérite parce qu'ils font de la générosité. Mais c'est pas pour autant que ça doit les empêcher de croire. Mais si, je pense que quelqu'un qui n'a pas de dire bon ben je serai accueilli par le Seigneur, il a pour moi il a plus de mérite. Mais pourquoi que cette personne par exemple
c'est
par rapport
moi,
au travers de tes propos non mais d'accord mais je non non mais je j'assume ce que je dis mais je vois pas pourquoi tu t'entêterais à dire oui mais à cause de ça la croyance m'intéresse pas. Ce que j'avais rajouté qui avait semblé te convenir à peu près. Moi, je pars du principe que la vie est tellement belle, l'être humain est tellement complexe, la nature est tellement se métamorphose tellement. Quand on regarde la chenille de papillon, le grain de blé qui pourrit et qui produit un épi ou une épi, je sais plus comment on dit. Bon, mais je pense que ça, pour moi, c'est ce qui me fait dire que on est le produit, le fruit d'un être d'amour qui a une intelligence. On l'appelle Dieu, Allah. Ce qu'on veut, mais pour moi c'est ce qui me fait croire que
tu veux dire qu'on n'est pas le fruit du hasard.
Je ne peux pas croire qu'on est le fruit du hasard. Ça me paraît impossible. Même la NASA fait des études là-dessus. Elle arrive, sans en faire un dogme, elle arrive à dire que on est le fruit de d'une intelligence d'amour. Voilà. Alors, pour la religion catholique, vois par rapport à ce qui a été dit au début, j'en termine,
Pardonnez-moi de t'interrompre, parce qu'il ne reste que quelques minutes.
Oui, mais la fraternité, j'ai entendu au départ, ce que je ne savais pas, ça a été lancé quand même par l'enseignement du Christ et par Saint Paul. Et pour moi, c'est quelque chose qui renforce. Oui. J'en avais pas besoin, mais ma croyance.
Ce que je veux dire, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est la montée du populisme, du Front National, moi, ce qui m'est important, c'est que le prochain, c'est pas que la famille, parce que souvent, les chrétiens se sont arrêtés un peu à la famille ou aux proches voisins. Moi, je suis au CCFD, le Comité catholique contre la faim et pour le développement. Et moi, j'ai été à Madagascar, j'ai vu la misère, mais alors là, de très près.
Tu as donné 2 ans de ta vie, là, je crois.
Non, un an, mais je n'ai pas donné 1 an de ma vie parce que je me suis plus à Madagascar.
On a fait partie des autres quand même.
Oui, mais honnêtement, j'étais dans un lycée, je faisais des cours avec, j'étais le seul blanc dans ce collège, ce lycée malgache.
Et tu as dû terminer dans une marmite.
Oui, mais puis j'ai aidé à améliorer parce que le curé de l'époque m'a envoyé la quête de Noël pour permettre aux jeunes filles qui étaient pensionnaires d'avoir des conditions de vie quand même un peu meilleures.
Peut éviter la montée du populisme ensemble, ça sera une victoire.
Oh, tout à fait.
N'oubliez pas que le Front National, il manifeste avec des vierges, il porte des vierges sur le dos.
Oui. Hein.
Ne l'oubliez pas, ça.
Oui.
Quand tu vois ça, moi je...
Le tri est à faire partout.
Et oui, il joue sur la peur.
Justement, je crois qu'on est d'accord pour la défense de l'homme.
Oui, tout à fait.
Je crois qu'on est tous d'accord.
Absolument, je suis d'accord avec ça.
Soit premier, soit au centre.
Non, mais c'est très important que agnostique ou athée, avec croyant, se rencontre avec un esprit de bonne volonté pour construire un monde de demain qui sera beaucoup plus fraternel et non pas au travers de clivages.
Très vrai.
Finissons-en avec le racisme sournois, avec le déclinisme, avec tout ça, et on va écouter parce que on arrive à la fin.
Je voudrais avoir le dernier mot pour la conclusion. Est-ce que vous acceptez, mes chers frères?
Oui, ma sœur.
Très bien. Ma conclusion sera tirée de la lettre encyclique du pape François, Laudato Si. Loué sois-tu, voilà, que je trouve très belle. Tout est lié, et comme êtres humains, nous sommes tous unis comme des frères et des sœurs dans un merveilleux pèlerinage entrelacé par l'amour que Dieu porte à chacune de ses créatures et qui nous unit aussi avec une tendre affection à Frère Soleil, à Sœur Lune, à Sœur Rivière et à Mère Terre. À méditer.
Bon, merci à tous les participants, et la prochaine fois, nous parlerons sûrement de la Toussaint, parce que c'est une fête qui réunit là aussi, devant les tombes des morts, les croyants et les incroyants.
Tout ce que l'homme fut, de grand et de sublime, sa protestation, ses chants et ses héros, au-dessus de ce corps et contre ce bourreau. À Grenade aujourd'hui surgit devant le crime, et cette bouche absente, et l'orca qui s'est tue, emplissant tout à coup l'univers de silence. Contre les violents, tourne la violence. Dieu le fracas que fait un poète qu'on tue. Un jour, pourtant, un jour viendra, couleur d'orange, un jour de palme, un jour de feuillages au front, un jour d'épaules nues où les gens s'aimeront, un jour comme un noël. oiseau. Sur la plus haute branche, ah, je désespérais de mes frères sauvages. Je voyais l'avenir à genoux, la bête triomphante et la pierre sur nous, et le feu des soldats porté sur nos rivages. Quoi, toujours ce serait par atroce marché, un partage incessant que se font de la terre entre ces assassins que craignent les panthères et dont tremble un poignard quand leur main l'a touché.